Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Et je prie maintenant, Seigneur. Je ne suis, Seigneur, que vase de terre entre tes mains. Qu'il te plaise, Seigneur, de parler au travers de moi, d'agir au travers de moi, de répondre aux supplications de quelqu'un au travers de moi, d'essuyer les larmes de quelqu'un au travers de moi, d'être la solution à quelqu'un ce soir au travers de moi, dans le nom puissant de Jésus. Que mes connaissances humaines, Seigneur, s'effacent, soient brisées, pour laisser uniquement place à ton Esprit Saint qui prend l'absolu contrôle ce soir au nom de Jésus. Parce que la sanctification est pour nous, Seigneur, un sujet essentiel pour notre marche chrétienne avec toi. Qu'il te plaise de donner à quelqu'un ce soir le pouvoir de l'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus. D'accorder à quelqu'un, Seigneur, de progresser, Seigneur, vers cette perfection de la sanctification au nom de Christ Jésus. Et donne-nous de gagner maintenant ce combat au nom puissant de Christ Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Voilà, nous étions en train de parler de la sanctification, c'est ça, non? Hier, on s'était arrêté, on a donné l'explication de la sanctification. On a dit, en bref, pourquoi il faut se sanctifier. Mais on n'a pas fini de dire pourquoi il faut se sanctifier. Et c'est aujourd'hui que nous allons achever avec ça et commencer comment se faire sanctifier. C'est ça. Et on s'était arrêté ici hier, au niveau de l'ivrognerie. Et je dis que la jeunesse aime tellement les fêtes des bières, les sorties là. Et on dit, ils ont l'habitude de dire, l'argent qui construit une maison est à part. Et l'argent qui boit est à part, c'est ça, non? Mais sachez que dans tout ce qui est cité, l'ivrognerie est mère de beaucoup de choses. Quand vous vous retrouvez autour d'un verre, c'est là où peut-être on vous apprend l'idolâtrie. Quand vous vous retrouvez autour d'un verre, ça, c'est le commandant de bord. L'adultère, c'est le commandant de bord. Parce que les jeunes ne sortent plus avec leurs fiancés ou leurs épouses. Mais ils ont l'habitude de sortir avec les maîtresses. Les maîtresses qui n'ont jamais eu l'occasion d'enseigner un seul élève. Quand ils sont autour d'un verre, ils développent toute autre chose. Le vol, l'envie, les calomnies, la malhonnêteté. Tout ce que la Bible a compté comme chose à ne pas faire pour se faire sanctifier. Et il y a des gens qui se retrouvent ici, et lorsqu'ils sont là, leur vie est complètement bousillée d'une façon ou d'une autre. Parce que quand vous buvez, vous n'êtes plus maître de vous-même. C'est en cela que beaucoup de péchés vous traversent. Et quand vous finissez là, c'est là où on commence par dire, mais qu'est-ce que j'avais fait ici? Mais comment c'est arrivé? Désormais là, je ne le ferai plus. Si vous ne voulez plus être le père de l'ivrognerie, vous devez apprendre à vous séparer des choses viles, les mauvaises fréquentations. Et c'est devenu aujourd'hui la mode des jeunes. Il faut qu'on sorte ensemble, il faut qu'on aille en boîte ensemble. Et certains développent le mauvais vice de dire aux autres, mais attention, moi chez moi là, ma femme ne peut pas me dire ça. Hein? Est-ce que c'est lui qui viendra gérer ton foyer pour toi? Pendant qu'on parle là, pourquoi tu ne lui laisses pas ta femme gérer? Pourquoi tu ne lui laisses pas ta femme, il va la gérer pour toi? Les mauvaises fréquentations vous amènent dans le péché. La Bible nous dit que quand deux personnes marchent ensemble, certainement qu'ils se sont convenus. Donc deux personnes ne peuvent pas décider de venir ici sans s'entendre. C'est impossible. Et ces mauvaises fréquentations-là, pendant que vous êtes en train de courir vers le perfectionnement de votre sanctification, ils vous arrêtent en chemin. Ah mais non, ah mais si. Je vous donne un exemple. Parfois, quand je donne des exemples, il peut y avoir, comme ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, tu te rappelles de ce que tu as dit hier, tu avais dit. J'ai dit, hein. Et sincèrement, je ne me rappelais plus. Et quand elle est rentrée dans le sujet, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je donne des exemples parfois sans donner des noms, parce que les exemples expliquent mieux, illustrent mieux. Peut-être que des gens seront dans ce cas-là, parmi vous, et n'osent pas poser la question qu'il faut pour comprendre. Et quand on commence par illustrer ces choses-là, ils reçoivent déjà la réponse à leur question tout bas. C'est pourquoi on l'illustre. Donc ne pensez pas que quand on a un problème, on l'expose pendant les formations. Non, ça c'est pédagogique. Ça vous permet de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Il y a un frère qui est en plein processus de sanctification. Et voilà, il est à la maison, je vous épargne du reste. Ses amis sont arrivés. Et pendant qu'ils voulaient manger, ils lui ont proposé à boire. Il a dit, moi je ne bois pas. Et quelqu'un lui dit dedans, Jésus n'a pas dit de ne pas boire la bière. Jésus n'a pas dit de ne pas boire la bière. Lui-même, il a bu du vin. Et c'est vrai, il a pris du vin. Mais il ne s'est pas enivré du vin. Ou bien? Donc, même juste une petite bière. C'est comme ça le diable vient. Juste une petite bouteille de bière. C'est-à-dire, tu connais ta dose, quoi. N'est-ce pas? Tu connais ta dose, quoi. Donc, tu prends juste un peu de bière, là. Ça... On dit petit à petit, l'oiseau. Petit à petit, le péché s'installe. L'impureté prend de l'ampleur. Et ce frère-là, il est allé acheter la bière. Ils ont siroté, comme on dit, leur première bouteille de bière. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable était à côté. Oh, toi aussi, une seule bouteille, ça ne suffit pas. Mais quand même, tu es à la maison, non? C'est sûr que c'est ce que le diable lui disait. Tu es à la maison, non? Où est le problème? Ils s'en vont acheter encore. On rajoute. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé par progresser vers l'impureté et non la sanctification. Et le péché qu'il s'était refusé. Et il s'est dit, je ne commettrai jamais ce péché. Il a même défié quelqu'un par rapport à ce péché. Voilà, le péché vient. Le diable, il est méchant. Il s'est assuré qu'il soit saoulé pour lui apporter maintenant le péché. Je suis sûr que ce jour-là, l'esprit mauvais animait cette personne qui était venue le tenter. Viens, tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. C'est pas toi qui m'as défié ici. Le péché est arrivé. Et quand le péché est arrivé, c'est sûr, vous pouvez tomber dans le péché sans le savoir et demander pardon à Dieu. À l'instant où vous êtes en train de commettre le péché, la main de Dieu est ôtée de dessus de vous. Et là, vous êtes livré. C'est pour cela que parfois, vous allez voir des gens se retrouver dans ce cas, on dit qu'ils ont fait accident. La main de Dieu ne peut pas être là. Il va faire accident. Il a fait ce que Dieu lui a défendu de faire. L'ivrognerie peut vous amener très, 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 très loin dans l'échec. Si vous avez envie de boire, encore que l'alcool ne fait rien de bon, si vous voulez, prenez peut-être, je ne vous conseille pas de devenir des alcooliques, hein. Peut-être un petit verre de vin qui régule la circulation sanguine une fois en passant. Les gens vont me dire, non, il s'est nous l'aiminabé, quoi, diabète. C'est faux, archi faux. Ah, et d'aéné, d'adore, souporaha, c'est du n'importe quoi. Il faut quand même un peu de taux d'alcool dans le sang, sinon, c'est pas bon quand on va te faire une opération, tu ne pourras pas te réveiller. Ah. Vous connaissez la souris? Qui est-ce que la souris a déjà mordu une fois? Comment elle fait plutôt la souris? Ben, elle doit aller vivre une fois, qu'est-ce qu'il fait encore? Encore non? Mais c'est ça le diable. Pour vous avoir là, il vous montre le bon côté des choses. Regarde toi aussi. Et le diable fait le plagiat de Dieu. Quelqu'un va me dire aujourd'hui, mais tu sais, votre parler en langue là, vous savez que les vaudous là aussi, je dis, c'est pas notre parler en langue. Ils ont leur parler en langue là-bas. Ce n'est pas notre parler en langue. Il y a une différence entre les deux choses. Et ce n'est pas les mêmes puissances. Et le diable connaît qui est réellement enfant de Dieu. On vient ici. Ah, ça là. Elles étaient en train de rire tout à l'heure. Il n'y a pas meilleur calomniateur que la femme. Ah, Akpes m'a dit. Pas poitou comme ça. Elles sont sévères dedans. Mais il y a aussi des hommes dedans, hein. Mais les femmes là, elles sont chefs ici. Tu les vois quelque part, surtout à l'église, là, dans nos églises, elles sont assises. Quelqu'un vient. Oui. Et c'est les femmes, vous allez voir, il y a un problème. Et Dieu suscite un prophète pour dire, tel a un tel problème. Levez-vous. On va prier pour vous. La femme, ah, toi aussi, elle est comme ça en train. Elle a déjà vu. Mais, dans la journée, ah, tu ne connais pas le monsieur là. Tu n'es pas venu à l'église le jour là ou bien quoi. Aïe. Quand on a parlé des puissants là, oh, lui là, il faut battre au jeton. Il faut laisser seulement. Ah, hé. Hey, faut m'affairer, affairage.com. Il dit, eh, parle ma soeur. Quand tu vois une femme, parle, raconte ma soeur. C'est quoi bateau? Ça là, c'est clair. Akpes m'a dit, est-ce que la bouche que Dieu nous a donnée, la Bible dit que nous sommes sanctifiés déjà. Notre langue est sanctifiée. Ça dit, notre langue a un pouvoir. Et tout ce que nous disons là, Dieu l'écoute. Et parce que les femmes sont des akpes professionnelles là, c'est comme ça qu'on appelle ça à Abidjan. Akpes m'a dit là, on coupe au milieu. Akpes m'a dit. Ou bien, c'est ça non? Est-ce que la bouche que Dieu vous a donnée pour être les sentinelles dans vos foyers, pour intercéder, pour éduquer vos enfants, avec cette langue vous allez encore maudire? Dieu ne peut pas accepter. Si réellement tout ce que nous disons est écouté par les cieux, revient s'accomplir sur la terre, Dieu ne peut pas accepter que notre bouche dise de mauvaises choses. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il ôte ce pouvoir-là et là ça devient du bavardage. Pia, pia, pia. Et après, on se dit, mais quand je prie là, Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que Dieu existe? Il existe. Il a pris ton pouvoir. Parce que là, là, tu risques de tuer beaucoup de gens. Calomnie-tu. Vous savez, non? Et quand le Béninois te dit, il y a même des hommes qui... Ah, tu as jamais vu des hommes à Kpes? Moi, j'en ai vu. Ils sont pires que les femmes. Quand Béninois te dit, Ma doemi se o doemi moué. C'est mensonge. Non, ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Ah, mon frère. Ah, je vais te raconter. Moi-même, j'étais là. Il n'était pas là, hein. J'étais là. Ma doemi se o me. Doemi moué. Ne souhait mon. Alors que c'est pour tuer quelqu'un. Il y a des gens, ils mentent, ils soutiennent le mensonge comme ça. Et puis toi-même, si tu ne sais pas faire là, tu vas dire que, est-ce que celui dont on parle là n'a pas réellement fait la chose ou pas? Ce sont des maîtres. Calomnie. Ah, tu sais, la voisine là, son mari n'a pas dormi à la maison hier. Ah, moi, oh, laisse. Moi, je ne dormais pas. C'est à 4h du matin que son mari est rentré. Sinon, tu vas dormir dans ta maison au lieu de regarder les autres. On est ensemble, on travaille ensemble dans une administration. Quelqu'un s'élève pour aller tuer le prochain. Mon frère là, madame, lui là, il n'est pas venu hier. Il faut faire attention. Ah, lui là, c'est lui qui a pris. Et là, là, les gens perdent leur emploi à cause de ça. Parce que quelqu'un est déjà là avant toi. Tu es là avant que le petit n'arrive. Est-ce que le petit s'est créé lui-même? C'est Dieu qui l'a créé. Parce que lui, il a la crainte de Dieu. Dieu met en lui la sagesse. Dieu met en lui la connaissance. Dieu met en lui la force de pouvoir faire mieux que toi. Parce que toi, tu t'occupes d'autre chose. Ce que tu fais. Et on se lève. Ah, lui là. On a fréquenté ensemble ici, non? Qu'est-ce que lui connaît? Quand on était à l'école, là, il était toujours le dernier. Mais tu étais où? Quand il est intelligent. Tu étais où? Tu as donné ce savoir-là à cette personne. Mais pourquoi ne pas contempler les bienfaits de l'Éternel dans sa vie? Et chercher à détruire sa vie. Parce que ce que vous oubliez quand vous calomniez, on a tendance à croire qu'on calomnie une personne. Mais non. Vous êtes en train de faire mal à plusieurs personnes. Cette personne appartient à une famille. Cette personne a peut-être des enfants. Cette personne a peut-être un époux ou une épouse. Et lorsque vous le calomniez, simplement il perd son poste, vous tuez tout ce beau monde-là. Dieu vous réclamera le sang de tous ceux qui sont devenus victimes de sa perte d'emploi. Et ça là, qu'est-ce qui amène ça? La jalousie. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être jaloux et calomniateur? Il n'y a pas de petit péché. Il y a des gens, ils sont moulés. C'est qu'ils sont nés dans le réservoir de ça. Ils sont nés pour ça. C'est une maladie, on doit commencer par prier pour eux. Si on descend de là, on vient ici, la malhonnêteté. Dans chacun de nous ici, là, il y a la malhonnêteté. Qui veut me parler? Levez le doigt. J'ai dit nous tous. Mais il y a plusieurs degrés de malhonnêteté. Ah, colonel Maui, il y a des commandants. Il y a des généraux. Mais il y a des fois où, vraiment, tu vas à des endroits donnés, ils sont tous des généraux dans la malhonnêteté. Tu es malhonnête, puisque la Bible dit, sois honnête dans les petites choses. Et Dieu te donnera de grandes choses. Avant de développer la malhonnêteté, j'ai été dans une boutique il y a de cela 2 semaines. Et je devais acheter des choses. J'ai négocié et tout. Je devais payer. Mais lorsque je veux payer, soyez toujours en communion avec le Saint-Esprit. Mais pour être en communion avec le Saint-Esprit, vous avez intérêt à vous sanctifier. Pour être connecté à l'Esprit de Dieu. Quand on a fini d'acheter, j'étais avec une dame, une amie à moi. Je devais payer 135 000. Mais je n'avais pas préparé l'argent qu'il faut pour acheter là. Donc je vais utiliser l'argent d'autre chose pour payer. Quitte à ce que quand je rentre, je puisse mettre ça à sa place. J'ouvre mon sac, l'argent que je voulais utiliser même n'est pas là encore. Donc, j'ai commencé par ouvrir des enveloppes. Et puis, c'est en cela que les collaborateurs vont me dire, non, nous, on a trop vidéo. Je m'en fous. J'ai des enveloppes, j'ai des sachets. J'ai des pièces, j'ai tout. Et je commence par ouvrir les enveloppes. Jour. Et à un moment donné, la fille, elles étaient trois. Il y a une parmi elles, elle me regarde jusqu'à quand elle a vu que l'argent était beaucoup, les enveloppes là, il y en avait de trop. Elle dit, je crois que j'ai déjà 2000 rouges. Et je dis, chez moi, personne ne peut me voler. Il faut leur demander. Il y a une de mes filles, de ménage qui voulait essayer un jour. Dieu me l'a révélé. Je me suis réveillée et dit, toi, Dieu m'a dit que tu veux me voler. Mais si jamais tu voles, elle tremblait comme ça. J'ai dit, oui, Dieu m'a dit, si tu me voles, tu vas voir. Et moi, j'ai fini. Dieu a sécurisé mes arrières. Où est le problème? Et c'était vrai. Si ce n'est pas vrai, est-ce qu'elle va trembler comme ça? Elle va dire, non, elle tremblait. Mon Dieu ne ment pas. Et elle dit, et non, Jajodomia, je dis, ah, qui peut oser me voler moi dans ma maison? Et mais, mon Dieu va le révéler. Donc, quand j'ai donné l'argent, j'ai donné à la dame avec qui j'étais. Je dis, remets-leur l'argent. Mais quand elle voulait remettre l'argent, le Saint-Esprit me dit, reprends l'argent et compte. Reprends l'argent et compte. Elle a remis l'argent à la dame. Et j'ai dit, non, redonnez-moi l'argent. J'ai pris l'argent, effectivement, j'ai compté. Au lieu de 135 000, je lui ai donné 140 000. J'ai enlevé les 5 000. Maintenant, j'ai recompté encore dans la main de la dame, de la vendeuse. Elles étaient trois. Quand j'ai recompté dans ses mains, maintenant, elle m'a vu que c'était 135 000. Le temps, c'est-à-dire, c'est quelques mètres, quoi. Il y a quelqu'un qui nous avait suivis aujourd'hui, la dame qui est là. Et le temps de quitter, elle m'a donné pour redonner l'argent à l'autre qui est au comptoir, elle a déjà enlevé 5 000 encore. From. J'attends qu'on me donne ma facture pour partir. Et l'autre innocente bête, derrière là-bas, elle compte, elle me dit, à quoi on sort, Béa? J'ai dit, vous êtes malade. J'ai compté d'abord. C'était 140 000. J'ai enlevé. Et j'ai recompté maintenant dans ses mains. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas au point, je suis désolée. Elle dit, non, c'est 130, prenez. Quand j'ai pris l'argent, j'étais fâchée. J'ai dit, je rentre chez moi. Je ne vais plus acheter. Alors que leur patronne, je l'avais déjà appelée, elle était à l'extérieur, on devait lui envoyer l'argent aussitôt pour qu'elle puisse ramener deux choses. Donc, la dame me dit, c'est pas grave, tu as plus que 5 000. Donne-leur les 5 000. J'ai donné les 5 000. Mais j'étais furieuse, non pas parce qu'elles m'ont volé 5 000, ce n'est pas que je suis à 5 000 près, mais l'idée ne me plaisait pas. La façon dont elle a volé ne me plaisait pas. Et si je la laisse comme ça, c'est mauvais. J'avoue que j'étais dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je dis à son patron, je la laisse comme ça, je me confie à Dieu, qu'est-ce que je fais? J'étais dans le trouble total. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, en tout cas, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire là? Parce que ce n'est pas normal. Et après, Dieu me dit, dis ça à son patron. Il dit, d'accord, je vais attendre. Quand elle va arriver, je vais lui dire. Donc, le lendemain, l'autre qui a compté l'argent m'a appelé, elle était tellement gênée. Elle a dit, non, ne vous fâchez pas. J'ai dit, oui, et j'ai coupé mon téléphone. Je l'ai laissé. Et je devais aller maintenant voir la patronne. Je n'ai jamais eu le temps. J'étais à Porto Novo la dernière fois, la patronne m'envoie un message. J'ai dit, tiens, je saute sur l'occasion. Je l'appelle. Elle dit, oui, j'ai ramené de bonnes choses, passez voir la boutique. Je dis, ok, mais tes filles m'ont volé 5 000. Elle dit, hein? J'ai dit, oui, elles m'ont volé 5 000. Et je lui ai narré l'affaire. Elle dit, venez là-bas. Venez, puis on va en discuter. Hier, je devais aller, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, comme je ne voulais pas partir seule, je voulais partir toujours avec la dame avec qui je suis partie comme témoin, on est entré aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, en tout cas, dénonce-la. Bon, peut-être que tu veux que je la dénonce. Et quand je suis rentrée, la dame a dit d'abord, je leur ai même donné de l'argent avant même de payer les 135 000. La dame dit d'abord, ce que je leur ai donné là, elles n'ont qu'à donner tous. Elle a pris l'argent chez eux. Et maintenant, quand on vient, on parle. Vous voyez, ça dit que quand on est malhonnête, on est humilié. Vous n'avez plus de dignité. Et quand je rentre seulement, tu verras que les deux autres étaient bons, gênés, mais gênés sainement, te dit, ah, comment la dame là, elle est venue, elle nous a donné l'argent, et puis elle vient maintenant, elle dit qu'on lui a volé ça, parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien fait. Mais celle qui a volé l'argent, elle était comme ça, tu vois. Mais regardez. J'ai dit, oui, vous avez volé. Et je ne sais pas qui d'entre vous deux a volé les 5 000, mais je sais. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas les deux autres.
C'est elle. Arrête de chercher loin. C'est elle. J'avais la confirmation du Saint-Esprit. Et l'autre dit, non, comment on va vous voler? On ne peut pas. Vous nous avez déjà dit, toi, tais-toi. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en un homme. Parle de toi et laisse les autres. Et elle était, c'est-à-dire, gênée tout le temps qu'on a passé là-bas, si tu la regardes. Et c'est au finish, la patronne me dit, tu vois, son père est décédé il y a 3 jours. J'ai dit, voilà. Ce n'est pas pour l'argent que son père est décédé. On ne va pas dire que Dieu n'est pas méchant jusqu'à ce point. Non, 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 pas du tout. Mais je dis, mais voilà que son père est décédé. J'aurais pu dire, ah, mes condoléances, c'est une fille très gentille. Maintenant, je t'aide, prends-elle. Mais je ne le ferai pas. Et je dis à la dame, retourne-leur maintenant l'argent que je leur avais donné parce qu'elles ont volé. Retourne-leur. C'est parce que je leur ai donné de bon cœur. Dieu a vu mon cœur. Je leur ai donné que Dieu a permis que je constate que quelqu'un a volé 5 000. La malhonnêteté vous met dans un état. On ne peut pas vous confier quelque chose. Vous voilà responsable, directeur à vos postes. On vous confie des agents. On vous dit payer des gens parce qu'on a confiance en vous. Et vous gonflez le montant. Et vous pensez qu'on ne voit pas. Même si on ne voit pas, Dieu, lui, il voit. Est-ce qu'on a besoin de voler pour avoir de l'argent? Dites honnêtement, je n'ai pas. Je veux passer. La malhonnêteté, personne ne peut vous faire confiance. C'est ça. Vous allez voir dans nos églises des gens qui détournent les caisses des églises. Tanyala Khan. La malhonnêteté. Pour combien? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et qu'est-ce qui vous pousse à la malhonnêteté et au vol? Quand on commence par faire des choses qu'on ne devait pas faire en temps normal, qui vous dépasse, vous avez besoin d'argent. Vous ne commencez pas à voler. On ne peut pas vous. Des femmes, il y a des femmes pickpockets. À sous-étonner des pantalons d'ailleurs, tchou, et des taureaux. Je connais. Elle me dit, à sous-étonner des pantalons d'ailleurs. Ah, et nous n'arrivons pas à mauvais, mais nous n'arrivons pas à sang. Nous n'arrivons pas à mauvais, mais nous n'arrivons pas à mauvais. Tu as volé. Elle dit, ah, je n'ai pas volé en tout cas. Et 5 euros goto. Quelques instants après, sa belle-mère vient à la maison. Et l'argent est tombé. La belle-mère ramasse. Arrive le troisième larron qui saisit maître Alibori. La fontaine. Oui! Il y a des femmes pickpockets, des femmes malhonnêtes. La malhonnêteté, ça dit, et donc, à nos revêts, si vous êtes malhonnête, sachez que vous partez. Les patrons se parlent, hein? Ah! Les patrons se parlent. Quand on vous dit, donnez-nous des référents, personnes ressources. Et vous écrivez, vous pensez qu'on ne les appelle pas? Les patrons les appellent. Quand vous donnez vos CV là, ça permet au patron d'appeler l'autre patron. Il y a déjà des gens qui sont venus à Global. Je suis parti de tel endroit parce qu'il ne paye pas. Parce que. Il a bien saboté son ex-patron. Ne sachant pas que c'est comme ça. Nous, on a déjà su que c'est comme ça. Il va aussi nous saboter quelque part. Il dit, ok, il a fini. Son patron est notre ami. Tiens, l'entretien, il a saboté propre. Il dit, ok, soyez à l'écoute. Il sort du bureau, on prend le téléphone. Hey, ah mon frère, comment tu vas? Il y a longtemps. Hein? Est-ce que tu connais un certain... Hey, tu veux me dire qu'il veut travailler chez toi? C'est un bandit. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Je te donne le numéro de tel responsable dans mon entreprise. Je te donne le numéro de tel. Appelle-les. Écoute-les si je suis en train de mentir ou pas. Ne le prends jamais. Après, vous allez dire, j'ai prié. Seigneur, j'ai déposé quand même les dossiers partout. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es honnête en tant que chrétien? On ne peut pas faire des affaires avec toi. Et là, nous t'aimons, nous t'aimons. Quand on fait des affaires avec toi, tu prends ta part ici, 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 tout le monde. Au final, tu penses que c'est toi qui es gagnant. Mais c'est toi le perdant. Tu ne feras rien avec l'argent de la malhonnêteté. Il faut apprendre à dire la vérité. Un enfant de Dieu doit dire la vérité, quel que soit le prix que cela peut lui coûter. Dieu n'est pas injuste. S'il nous demande de dire la vérité, il n'est pas injuste. Des gens m'ont tendu un piège un jour. Je suis venue dans une administration et personne n'était content de me voir. Parce que quand je suis arrivée avec des clés et j'ai commencé par fermer les vannes. Telle chose là, il y a du gaspillage. Telle. J'ai tout bloqué. Personne ne veut me voir. Un jour, le patron est allé à l'extérieur. Parce qu'il est allé à l'extérieur, je devais faire un entretien. Et à quelques minutes de l'entretien, j'ai appelé le patron. Je dis, bon, je ne me suis pas reposée à midi. Mais là, j'ai convoqué les gens pour 17 heures. Je suis en train de partir à la pause. Et je suis partie. J'ai pris soin d'avertir tout le monde. Tous ceux qui sont là comme directeur, comme moi. Et je suis en train d'aller à la pause parce que je n'étais pas allée à la pause avant. Mais j'ai appelé quelqu'un, je dis, quand ceux que j'ai appelés pour 17 heures vont arriver, appelle-moi, nous avons tous des corporates. Il dit, d'accord, je pars. Ils se sont entendus. Les gens sont arrivés, c'est vrai, l'autre m'a appelé. Il y a tel nombre, 3 sur 11, après 8 sur 11. Quand il a dit 8 sur 11, je m'apprêtais déjà à partir. Effectivement, j'avoue que je faisais de ma pause autre chose, ça ne les concerne pas. Je me suis levé, je m'apprêtais à partir. Mais quand le patron a appelé un autre directeur qui n'était pas d'accord de ma présence, il dit, ah, on l'a pas vu, hein. Elle est partie depuis 13 heures, n'a rien dit aux gens, elle a convoqué les gens. Donc, ils sont là plus tôt, elle n'est pas arrivée, elle n'a rien dit à personne. Il m'a saboté. Le directeur m'appelle, il dit, tu es où? Je dis, j'ai dit, je serai à la pause. Mais je fais de ma pause autre chose. Je suis chez ma coiffeuse, mais je suis prête à partir parce qu'on m'a dit qu'il y a 8 personnes sur 11 que j'ai convoquées. Je suis sur le point de partir. Et il m'a dit, c'est ton honnêteté qui t'a sauvé. Tel m'a dit ci, tel m'a dit ça. Si j'ai dit non, il ne m'a pas vu, bon, je suis là, hein, je sais qu'il n'est pas au pays. Je suis là, mais apprenez à dire la vérité, quel que soit le prix. Tu tombes dans le péché. Dis la vérité à Dieu. Tu es fiancé et tu n'as pas pu te connecter à l'Esprit de Dieu. Et tu tombes. Dis la vérité à celle que tu prétends être ton épouse, ta future épouse. Elle peut te relever. Elle peut intercéder avec toi. Je ne dis pas d'aller commettre ce péché-là pour venir dire, s'il te plaît, tu sais, je suis tombée. Et tombée en zindé. Ah non. Apprenez à dire la vérité. Et quand vous dites la vérité, ça vous sauve à des moments donnés. Ça vous sauve. Et quand vous donnez votre parole, on peut croire à votre parole. Mais il y a des gens qui donnent leur parole, tout le monde les regarde. Oh, définir, hein? C'est pas vrai, il ment. Comme le dit mon fils, il ment, menteur. Il ment. Apprenez à dire la vérité, quel que soit le prix que vous pensez. Ce n'est même pas toujours vrai que vous payez un prix pour la vérité. Que vous pensez que vous allez payer. Dites toujours la vérité. Vous avez pris quelque chose, oui, je l'ai pris. Vous avez fait quelque chose, oui, je l'ai fait. Mais je ne savais pas. C'est dans telles conditions que je l'ai fait. Où est le problème? Tu as 10 amants, cachés, femmes. Et tu as maintenant Jacob, et c'est Jacob qui te plaît. Jacob vient te surprendre, et quelqu'un est en train de te descendre à la maison. Tu dis, c'est mon oncle. Le fils, ouais. Alors que l'autre est porte-nous, vient, toi, tu es de Ouida, tu dis, c'est ton oncle. Hein? Ah, patriotisme. Les femmes mentent. Tu sais, c'est mon cousin là. Non, c'est mon collègue, il n'y a rien. Quand les femmes commencent à dire, non, il n'y a rien entre nous, hein. C'est que c'est mon collègue. Ah, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se dépêche pour se défendre. Blim. Il faut dire la vérité. Quelqu'un m'a déjà posé la question de savoir ici, pendant un enseignement. J'ai dit, mais il faut être honnête. Quand vous voulez rentrer dans une relation, soyez honnête. Avec celui avec qui vous voulez partager votre vie. Tout le restant de votre vie là, vous voulez partager ensemble. Et vous ne voulez pas être honnête. Vous voulez lui mentir. Est-ce que c'est normal ça là? Je dis mais, à la limite, quand vous rencontrez un homme ou quand vous rencontrez une femme, la première des choses c'est de dire, je suis telle. Il veut. Il ne veut pas. Même les bossus, ils ont d'assous. Et toi, tu es belle, tu as peur. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour avoir peur? C'est la grande question. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour avoir peur? Et ça sauve. Regardez par exemple, vous rencontrez un homme, vous ne lui dites pas la vérité. Vous vous mettez ensemble, vous rentrez dans les liens du mariage. Il ne sait rien de vous. La plupart des hommes mariés, quand vous leur demandez, ta femme là était qui avant? Et toi? Et on va vous dire, non, hein, la femme aussi a ses secrets, l'homme aussi a ses secrets. Ah non! Si vous êtes appelés à vivre ensemble, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, on dit tout. Il n'y a même pas de cuisine éteinte, ni externe. Vous devez tout vous dire. Sinon, les gens vont briser votre couple. Ah, c'est pas fou. Les hommes n'arrivent pas à dire la vérité. Vous devez tout vous dire. Votre relation doit être basée sur la sincérité. Vous ne dites rien à la personne. Il ne sait pas. Demain, il devient par exemple un président. Votre S devient son premier ministre. Il y a un proverbe qui dit, qui a bu? Et après, vous allez parler d'adultère. C'est clair. Et ce dernier ne peut même pas respecter votre mari. Ah non, ils sont sur les mêmes piédestals. Oui ou non? Ah, mieux bah y'en a quoi qu'on. À la limite, il y a bluffé pour Dieu, monsieur le président. Quel problème on est? Il y a aucun. Et quand ce ministre-là a des manifestations, votre femme, est-ce qu'il prend raga? Mais c'est ça. Vous n'avez pas dit la vérité. Et je disais même dans ce stage, j'ai dit, mais le jour où moi j'ai rencontré mon mari, le papa de mon essai, mon mari là, il dit, voilà qui je suis. Ouverte pain comme papier. Monsieur, ça te plaît? Ou ça te plaît pas? Au revoir? Ben oui. Et puis ça fait qu'à des moments donnés, il sait qui connaît ma femme et de quelle façon. Il sait quoi éviter. À la limite, si le gars il devient premier ministre, il empoisonne monsieur et puis c'est fini de dire, oh, tu sais, hein, je t'aimais, hein, tu avais fait des bêtises. Hein. Puis c'est vite fait là. Ça prend du temps. Non. L'honnêteté. Je connais tel. Voici mon histoire avec tel. Nous sommes arrêtés à tel point. Et quand quelqu'un va se lever demain pour détruire votre couple, il va dire, ah, tu sais que ta femme là, tel monsieur là, il va dire, mais non, elle m'a déjà raconté. Et ça, c'est son passé là. Et c'est passé. Et quand vous êtes honnête surtout, sachez quand vous êtes fiancé ou quand vous êtes marié, et vous décidez de baser votre relation sur la sincérité, sur l'honnêteté. Quand bien même, vous avez une fille dans votre entourage qui vous, comment on dit là, qui vous yeute là, qui met les clignotants, les retouches, et puis cherche souvent à s'asseoir à côté de vous, parce que c'est comme ça, ça commence toujours. Dites à votre épouse ou à votre fiancé, je suis confrontée à tel. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où, peut-être à l'instant vous ne voulez pas, mais le jour où, parce que les femmes là, elles sont dangereuses, aïe, quand femme veut quelque chose, elle a les astuces. Le jour où elle va se lever pour faire, tu auras peur, tu vas dire, ah, je lui ai déjà dit. Certainement qu'elle est en train de me guetter dessus. Mon épouse est en train de me guetter dessus. Ça va te sauver. Quand tu as une femme, ton patron commence à faire, secrétaire. Madame la secrétaire. Bon, il faut vite saisir les documents. C'est comme ça commence. Et blum, blum. Excusez-moi, monsieur, mais du respect. Ah ben oui. Ah ben oui. Moi, j'en ai déjà giflé. J'en ai déjà giflé. Et puis ce que je dis là, regardez par exemple. Que je me sois laissé comme jouer entre leurs mains. Regardez le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. L'homme que Dieu m'a donné. Qui va le respecter? Qu'est-ce que lui raconte? Laisse tomber. Si ce sera Dieu. Mais c'est ça. Moi, j'en ai giflé. Quel patron? On s'en fout là. On On s'en fout. Il est fou ou bien il s'en fout en touchant ma main. C'est quelle relation là? Hein? Ah, fine. Quand vous avez des patronnes, les hommes, madame là, non, et vous devenez des gigolos. Vous êtes gigolo pourquoi? À cause des was, à cause de 40 000 francs. Les hommes sont des gigolos. Et le was là, même en question, on ne vous donne pas une pièce ou bien demi-pièce. Hein? Non, bah oui. Vous n'avez pas honte? Ah, marche longue. Ben non, toi, was au dokoji. Vous devenez gigolo parce que vous n'avez pas de quoi payer votre loyer. Et vous commencez par rentrer à 2h du matin. Vous allez chercher les démons là-bas. Et vous amenez ça à la maison. Et vos épouses sont là. Quand les problèmes commencent, vous ne pas ziboter à Saint-Paul-Rossa. On commence pas à s'asseoir à la maison. À l'ouratomé. À n'asseoir à Pédia. Vous devenez gigolo à cause de quoi? D'une moto Dream. Et toute votre vie est bousillée. Ces mamans-là, est-ce qu'elles se respectent? La Bible dit, celui, un enfant qui voit la nudité de sa mère ou de son père est mort. Et au ministère, quelqu'un a dit quelque chose ici? Ah, maman, qu'en flan? Avec les cheveux blancs partout. Les cheveux blancs partout. Je ne vais même pas détailler partout. Et c'est vous, vous prenez vos yeux d'enfant pour aller regarder vos doux. Hein? Et vous allez regarder vos doux. Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous vous sentez propre dans ça? Maman, il a donné un yébé. Ou bien? Commencez déjà par leur dire, maman, il va pas parler. Oui, de ton âge. Et puis, il y a une vilaine phrase qu'elles utilisent. Et terminons-le. Donne yon. Allô? Vous voyez, ils vous ont pris comme des bœufs à l'abattoir. Donc, quand on dit, on dit, on et vous n'avez pas honte. Ah! Mais non! Elles vous envoient à l'abattoir comme des bœufs. À la charcuterie, et puis on vous charcute. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là spirituellement, parce que vous n'êtes pas sanctifiés, vous êtes dans l'impureté, la main de l'Éternel est ôtée de dessus de vous. Vous êtes vulnérables. Elle, spirituellement, dans le monde des ténèbres, a vu votre destinée. Ah, le petit là, tiens, pas ici. Avec leur pratique occulte, le livre qu'on vous a résumé là, vous qui allez chez les astrologues ou bien les mamans, les nyakman, là. Arrêtez. Arrêtez. Parce qu'ils voient vos vies. La Bible nous dit que les rois mages ont vu quoi? Ont vu l'étoile de Jésus. Vous avez des étoiles. Chacun de vous a son étoile. Que les astrologues peuvent voir. Mais quand vous êtes caché en Jésus, ils ne peuvent plus avoir accès à votre étoile. Le sang sécurise votre étoile. Le sang sécurise votre destinée. Mais quand la main de Dieu est ôtée, il regarde dedans. C'est pourquoi on va te dire, tu es lion, tu es fourmi, tu es crabe, tu es éléphant. Tu es pour. Les matins, là, vraiment, ce n'est pas ton jour de chance. Et vous croyez bêtement à ces choses-là. Un enfant de Dieu va croire à ça. Et on dit non, même si je ne crois pas le jour je lis là, c'est que vraiment ça se passe. La Bible dit que ce que tu crois, tu... Puisque tu as lu, ton esprit est attaché à ça. Ça va t'arriver. Puisqu'ils ont accès à ton étoile n'est pas sécurisée. Donc si les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, ah, ils savent qu'il y a une différence entre les étoiles. Et quand ces vieilles mères regardent votre étoile, ah bon, ils amènent ça dans le camp de mamie là-bas. Dans le camp de leurs adeptes là-bas. Et ils transforment votre vie, comme le dirait l'autre, vieille, et non fou. Bon, tu n'en es nous. Elle est foutue. Ce que vous devez savoir quand vous êtes sanctifié. Et j'ai dit hier que la sanctification doit être progressive. Ce n'est pas aussitôt que vous l'avez eu, c'est fini pour toujours, il n'y a plus d'effort. Non, votre sanctification doit être progressive. Et elle ne peut pas être le fruit de votre effort personnel. Non, ça peut être le fruit de votre choix, de votre volonté d'être sanctifié, d'être mis à part pour Dieu. Parce que quand vous êtes sanctifié, vous pouvez prendre autorité sur le diable. Vous pouvez prendre autorité sur les situations difficiles. Parce qu'à des moments donné, la Bible nous dit que Jésus, en voulant chasser les démons, il dit aux démons, rien de toi n'est en moi. Maintenant, toi tu dis, tu fais chrétien. Oui, je suis un chrétien. Ah oui, hein, moi je prie. Ah non, si tu veux. Et puis oui, tu peux ne pas être sanctifié et avoir le feu de la prière. Mais tu ne tueras personne. Rien ne se passe. Le diable, quand tu vas parler, le diable va dire, hein, bon, tu viens d'où? On dit chrétien, je veux aller combattre, je veux prier, je veux ça. Et tu vas devant l'ennemi. Et tu dis, au nom de Christ Jésus, je te réprimande, je te commande. Le diable va dire rectificatif. Tu commandes qui? Je suis en toi et tu me commandes. Aïe! Moi, je contrôle ton esprit. Et toi, tu veux me commander. Il va te gifler. Il va dire, ah, c'est quoi? C'est ça là que je t'ai donné là, qui te fait perdre la vue. C'est la bière qui te fait perdre la vue pour que tu me commandes ou bien quoi? C'est la question que le diable va vous poser. Ou bien il va dire, c'est quoi? Parce que je t'ai traîné dans toutes les maisons de passe là, que tu veux me commander? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est parce que je t'ai laissé voler deux fois, trois fois, tu as amassé un peu beaucoup là, tu penses que tu peux me commander? Tu ne peux pas me commander? Parce que l'impureté est en toi. Tu ne peux pas gagner des combats. Tu ne peux rien avoir comme ça. Et tu n'es pas en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et notre puissance, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui est notre force. Et si nous voulons être connectés à lui, recevoir directement des révélations de Dieu, que Dieu nous dise, passe ici, reviens là, fais comme ça, voici ce que je veux te donner, voici, voici. Et je vous dis, la sanctification était arrivée dans notre vie chrétienne à un moment très, très important. Et vous allez peut-être penser que parmi tout ce qui est là, là, la cupidité, là, on n'en a même pas parlé. C'est des gens, ils ne peuvent rien faire pour personne sans à quoi. Je ne dis pas de ne pas travailler, de ne pas gagner honnêtement son pain. La cupidité là, qui connaît la cupidité? Ça dit? Oui. Voilà. Amour de l'argent, ça dit? Ah, mon frère, s'il te plaît, prends-moi ça là-bas. Tu me donnes combien? Il n'y a rien dedans, je ne fais pas. Mon frère, viens écouter la parole de Dieu à tel endroit. Ah, ah, quoi de bien? Tiens, j'y demeure, tiens, j'y demeure, tiens, j'y demeure, oh, bafona. Gombo, ça c'est les musiciens, c'est, ça là, c'est les musiciens. Gombo, et le samedi, les musiciens ont transformé ça en risan, à risan et ton, ouais. Jam de ton là, jam, jam, il a jam à ouer au moyen. 5 000, j'y demeure, et tu les vois courir dans tous les coins de Cotonou pour 5 000. Ça c'est la cupidité. On dit, venez servir le Seigneur. On vous donne l'occasion de louer Dieu au son des trompettes. Et c'est lui qui a mis ce talent-là en vous. Et on dit, ah, église de 100 000 et non soumis, Nabi et Jassou, dans la maison de Dieu. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça n'amène nulle part. Mais quand vous êtes sanctifié, vous êtes en connexion avec Dieu. Vous pouvez tout par celui-là qui vous fortifie. Mais vous ne pouvez pas aimer le monde. Parce qu'à des moments donnés, il y a des gens qui disent, bon, ils font le point. Ça, je ne suis pas dedans. Ça, je ne suis pas dedans. Ça, 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 je ne suis pas dedans. Bon, il reste peut-être 2 choses. Bon, ce n'est pas encore grave. Hein. Ça fait peut-être, admettons, ça fait 8 sur 12. Ce n'est pas grave. On peut continuer. Ah non! Et on se dit, bon, si je dis trop la vérité, là, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Non, il vaut mieux perdre des choses du monde pour gagner dans le royaume de Dieu que de perdre dans le royaume de Dieu pour gagner là-bas. Parce que ce que le monde nous offre est éphémère. Ce que le monde nous donne est suivi de chagrin. Mais ce que Dieu nous donne est suivi d'aucun chagrin. Dieu nous donne. Il dit, même sa paix, Il ne nous la donne pas comme le monde nous donne. Mais c'est une paix infinie qui est là. Et la Bible va nous dire, je ne sais plus trop dans quel livre, séparer les choses viles, les choses du monde, des choses saintes. Nous sommes arrivés au moment où, dans nos vies, nous devons séparer les choses de la chair, des choses de l'esprit. Et c'est comme ça que vous allez recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu en vous et vous pouvez vous lever, combattre pour le royaume des cieux. Et sans la sanctification, vous ne pouvez rien. Parce que quand vous êtes impur, vous demeurez dans le péché. Vous êtes mort, spirituellement et même physiquement. Parce que rien ne peut plus porter de fruits en vous, si ce n'est le diable et ses œuvres. Et c'est pourquoi vous allez voir que souvent, quand on veut faire passer les gens par les eaux du baptême, on dit souvent, est-ce que tu renonces aux œuvres du monde? Ils ne comprennent pas parfois, ils disent, oui, je renonce aux œuvres du monde, je renonce au diable, à ses œuvres. Mais le lendemain matin, après le baptême, ils retombent dans le péché, trouf. Dans leur vie de fornication, dans leur vie de vol, dans leur vie d'ivrognerie, dans leur vie de calomnie, dans leur vie de malhonnêteté, dans leur vie de cupidité, d'impureté, tout ce qui est là. L'injustice. Alors nous devons appeler l'Esprit de Dieu et demander de nous aider. Parce que c'est lui seul, la Bible dit que c'est lui seul qui nous enseigne toutes choses. De nous aider à nous sanctifier. Mais quand vous commencez le combat de la sanctification, résistez au diable. Parce que quand vous commencez ça, le diable va venir. Quand tu dis, bon, je ne vais plus en boîte, quelqu'un va te rencontrer. Mon frère, toi aussi, comment tu peux dire des choses comme ça? Hein? Joe, allons-y ce soir seulement. Moi, je vais, bon, les femmes ne nous suivent pas, on a un groupe là, on va seulement en homme. Quand la boîte de nuit là-bas, là, il n'y a pas de femmes qui sont réservées là-bas pour vous. Les démons de libertinage, comme je les appelle. Beaucoup de choses peuvent se passer là-bas. Prends sa main, amène-le au gospel nightclub. S'il ne veut pas, il n'a qu'à rentrer chez lui. Tous ceux qui vous bloquent dans votre sanctification, vous devez les séparer de vous. Et demander à Dieu de vous donner la fermeté dans votre décision de devenir pur. Dans le perfectionnement de votre sanctification. Et il va vous aider. Il dit, à celui qui frappe, on ouvre. Donc ça veut dire que si personne ne frappe, il n'ouvre pas. À celui qui demande, on donne. Si personne ne demande, il ne donnera pas. C'est ça notre puissance. Et quand vous grandissez dans la sanctification, c'est fini pour vous. Plus rien ne peut vous arrêter. Plus rien ne peut vous arrêter. C'est fini. Vous devenez une puissance. Vous devenez un membre actif du corps du Christ. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être s'arrêter là. Oui.
Bon, je remercie madame pour l'exposé. Avec tout ce qui est décrit, personnellement, je sais où je me retrouve dedans. Parce que quand on fait la somme de tout, on se reproche des choses. Autant que nous sommes, on se retrouve quelque part. Mais il y a néanmoins des points dans lesquels j'ai pu réussir à me soustraire et ça ne me verra plus jamais. Et j'aimerais attirer l'attention de l'Assemblée sur le péché de l'idolâtrie. Et je prends le côté simplement des horoscopes pour dire aujourd'hui, ce phénomène est tellement modernisé que autant jadis, il faut se lever et aller quelque part pour le faire. Mais aujourd'hui, dans les simples journaux que nous achetons, nous avons des pages réservées à cela. Aujourd'hui, simplement, depuis nos portables, nous pouvons faire des consultations. Et c'est tentant, et la jeunesse aujourd'hui s'est totalement lancée dedans. Pourquoi? Parce que il n'a plus d'étiquette quelque part où lorsque la personne est en train de rentrer, on saura que, ah, celui-là, il est venu consulter à partir de nos portables. Même je parle des portables sans Internet, hein, oublions même Internet,
Même les portables de 3000 francs, double SIM qu'on vend là, même simplement avec ça, on continue encore de consulter ces choses. Et la chose est tellement aberrante que moi, vous savez, moi je me dis comment Dieu m'a créé homme et je peux accepter qu'on me ramène à cause de ma date de naissance, par exemple, pour dire que je deviens poisson. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je suis homme et on me dit que je deviens un animal. Et les gens s'affectionnent ça et chaque matin, c'est-à-dire, ils sont poussés vers ça. Ils cherchent réellement à savoir qu'est-ce qu'on a prévu pour la journée. Mais c'est-à-dire, l'homme est insensé dans tous les sens. On dit que vous quittez l'étape d'homme et vous revenez à un objet et puis l'homme ça coquine à ça, l'homme aime ça. Et quand on achète, d'autres quand ils achètent les journaux, moi très souvent quand moi j'achète un journal, c'est la page recrutement qui m'intéresse. C'est ça que moi je regarde. Quand vous me voyez acheter en réalité là, à moins qu'il y ait une actualité politique vraiment, vraiment qui m'intéresse, sinon... Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Mais je connais des personnes chaque matin, quand ils achètent les journaux là, c'est page horoscope. Et c'est pour aller regarder leur scorpion quelque part, leur balance quelque part, et puis l'homme est dans. Donc, c'est-à-dire, c'est bizarre. Vous savez, jusqu'à ce que moi, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, je le dis, et puis parfois mes amis me prennent comme. C'est-à-dire un démodé de dernière génération fœtus. Parce que moi, je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. Jamais dans ma vie. À cause de l'éducation de mes parents, je n'ai jamais mis pied.
Et ce n'est pas que je n'aime pas.
Ce n'est pas que je n'aime pas.
Tu n'es pas connecté, toi.
Je n'aime pas m'habiller. Ce n'est pas que. C'est-à-dire, quand on parle de se recréer. Quand vous venez me voir, il s'agit aussi de s'amuser. Je sais très bien amuser la galerie aussi. Mais je n'ai jamais mis pied. Donc, tout ce qu'on raconte, et ce que vous êtes en train de faire, jeu de lumière, on danse. Mais mon tour, nous venons les déa. Moi, je ne connais rien
mais c'est de bon.
Ça. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, la vie de sanctification résume en réalité la clé que nous détenons pour rentrer dans le ciel. Et nous devons tout faire. Tout faire parce que la parole de Dieu dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? C'est-à-dire, d'abord, et moi j'ai fait le bilan, c'est-à-dire, même avant que moi je ne connaisse le Seigneur, moi je ne drague jamais deux fois ou mais deux femmes au même moment parce que quand je commence avec quelqu'un, c'est-à-dire, c'est ça ou rien jusqu'à ce que je me tombe. On a, c'est-à-dire, on se sépare avant que. Donc, moi, même avant le Seigneur, parce que l'éducation que moi j'ai reçue ne me permet même pas. Et puis, on fait. Parce que je ne sais même pas monter sur deux chevaux à la fois. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, nous devons faire l'effort. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, parce que c'est maintenant qu'on va. Dieu dit que celui qui enseigne la parole ou connaît la parole. On lui demandera, il sera sévèrement puni sur des choses. Nous avons eu la grâce au temps que nous sommes ici d'entendre ce que nous venons d'entendre. Ça veut dire demain si tu le fais, tu seras millièrement châtié par rapport à ça. Que chacun analyse sa vie et cherche à plus plaire à Dieu qu'aux hommes. Merci.
Merci beaucoup. C'est vrai que ça mérite pour Dieu. Ce qu'il vient de dire là, c'est très important. Moi-même, j'avais eu du mal à laisser l'horoscope. Et vous savez pourquoi j'ai eu du mal? Le diable est méchant avec tous ses suppôts. Ils ont fait en sorte que, on me dit, si vous êtes poisson, vous avez 7 ans de bonheur et 7 ans de difficultés. Hein? C'est quoi? Vous avez dit 7 ans de bonheur. 7 ans de difficultés, là, vient d'où encore? Bonheur, là, c'est pas continu. Ça s'arrête encore en chemin. Mais malgré ça, j'ai du mal à laisser. Et quel que soit l'effort que je fais, je suis toujours tentée d'aller vers. Je me réveille le matin, j'allume la radio. J'écoute. Et ils font ça à 6 heures. Hein? 6 heures du matin. Et les gens se réveillent à 6 heures, rien que pour l'horoscope. Parce que l'horoscope, tu dis, ouais, tu es. Regardez tous les rois de l'Ancien Testament. Avant que Dieu n'envoie un prophète chez eux, ils ont toujours eu des devins, des magiciens, des je ne sais quoi, plein, n'est-ce pas? Et la Bible nous a dit quelque part, le pharaon a consulté tel, à cause de son rêve. Personne n'a pu interpréter. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est Joseph, l'envoyé de Dieu, qui a pu dire au roi, voici la signification de ton rêve. Avec Daniel, personne, les devins, ils sont là, personne. Regardez, Dieu envoie Jérémie et dit, Jérémie annonce au roi que Babylone viendra la siéger là. Les devins ont dit, tu viens d'où? Non, nous avons consulté tel, nous a dit que c'est faux. Et les hommes croient. Cela. Comment on peut faire de vous des bêtons? Dieu vous a donné l'autorité, faites de vous béotons. Et il dit, allez, dominez sur tout, assujettissez tout. Et puis vous dites que vous êtes scorpion. Tcho? C'est vrai. Et on dit, je suis quoi? Sagittaire, oui. Je suis vierge, ou bien balance. Et vous acceptez, votre vie va balancer. Regardez ça. Et quand vous regardez, bien sûr, vos portables, quand on vous dit envoyez au 720, au 70, au 0, parfois même là, même les réseaux sociaux là, c'est des gaïmans. Ils vont vous envoyer des trucs. Si tu ne fais pas attention, le message efface. Sans toi, mais tu fais 70-01. Quand ça vient là, j'efface. Je ne veux même pas laisser et puis après je vais tomber dessus pour lui. J'efface. Ça là, ça n'a rien à faire dans mon portable. C'est forcé. On dit envoie tel numéro à tel. Et toi-même, tu penses que ce n'est pas cadeau, hein, c'est dans ton crédit, ils enlèvent. Donc tu achètes la mort avec ton crédit. Mais c'est ça. Vous achetez la mort là avec votre crédit. Journal. Au moins, on rend grâce à Dieu. Il y a maintenant la télévision. Et il y a nos amis de Ménantela qui nous font le point. Laissez journal papier. Ce qui est à vous là. C'est vrai, je ne dis pas de laisser, de ne jamais acheter. Mais si vous pensez que vous pouvez acheter sans aller à l'autre page, ou peut-être quand vous achetez là, déchirez l'horoscope, mitre, ou bien, déchirez ça, jetez, et puis regardez le reste. Parce que le diable va vous tenter. Il dit, oh, il faut faire. Tu vas voir. Et on dit, envoie l'initiale de ton prénom, l'initiale de tel, et puis on va te dire l'amour de ta vie. Le diable va t'envoyer un messager, oui, qui va troubler ta vie. Est-ce que ce n'est pas horoscope qu'on connaît sa destinée? Ou bien celui qu'on va épouser? Minobolé, loblo, et puis réveillez-vous. La sanctification, comme il dit, c'est la clé qui va vous amener dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un ne veut pas y accéder, c'est tant pis pour lui. Oui.
Je vous remercie. Voilà, je voudrais aborder dans le sens de la malhonnêteté.
Oui.
En fait, je voudrais poser un cas. Mm-hmm. Un groupe de jeunes décide, par exemple, de rédiger un projet qui peut intéresser l'État. Mais il se fait que nous sommes dans un État aujourd'hui où, bon, avant de pouvoir porter un projet où il faut passer par des gens, Vous savez que, par exemple, votre projet peut coûter 15 millions. Mais il se fait que ceux qui sont autour, qui sont prêts à vous accompagner auprès de l'État, disent qu'ils vont enlever pour eux dedans avant que ça n'atteigne le niveau supérieur. Et du coup, ils envoient le coût à 40 millions parce qu'ils sont sûrs d'enlever bon, les 25 et eux, vous allez prendre les 15. En tant que chrétien, qu'est-ce que le chrétien doit faire vis-à-vis de cette situation? Est-ce qu'il doit refuser de porter le projet ou... Voilà.
Ça, c'est une grande question. Je vais laisser monsieur répondre. Envoyez-lui le micro derrière.
Alors, déjà sur l'horoscope, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut être intelligent, il ne faut pas être bête. Mm-hmm. L'horoscope est divisé en 12. tous ceux qui sont nés dans un mois, l'horoscope prétend qu'ils ont la même journée. Cela veut dire qu'on devrait avoir 12 types de journées, 12 types d'humeur, 12 types de vie. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Il suffit de prendre quelqu'un qui est né dans le même mois que vous. Comparez vos journées, vous verrez qu'elles ne se ressemblent pas. Mais l'horoscope prétend tous les jours qu'elles se ressemblent, vous y croyez. C'est-à-dire que l'horoscope vous prend pour un imbécile, un idiot, et vous le suivez tous les matins en croyant qu'on peut diviser les gens en 12 et qu'ils aient la même journée. Est-ce que vous avez jamais réalisé ça?
Non. Moi, mais non.
L'horoscope n'a que 12 types, non?
Exactement.
Vous êtes des millions et on résume vos vies en 12 cas. Vous voyez, votre cerveau n'a jamais vu ça. Des yeux pour voir, vous ne voyez rien. Ils vous prennent pour des imbéciles. Vraiment. Il n'y a même pas besoin de chier le journal. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il est bête. Il ne faut pas aller chercher loin. Il faut être bête pour croire cette affaire-là. Et pire, ce que tu crois t'arrivera. L'horoscope vous donne la journée que vous croyez. Si tu te réveilles le matin, on te dit que tu vas mourir au premier, à la première voiture qui freine devant toi, tu meurs, tu te dis, c'est pas la peine d'essayer de freiner, on t'a dit que tu vas mourir. C'est l'horoscope qui t'a tué. Donc, il faut arrêter de lire des niaiseries comme ça. Bon, ça c'est une parenthèse. Non, c'est pas la peine de déchirer l'horoscope. Il faut voir l'horoscope. Moi, il m'envoie des mails gratuits tous les jours, je détruis. Je fais pas mise en voie tous les jours, mais je supprime tous les jours. Donc, vraiment, si vous comprenez qu'ils se moquent de vous, vous n'allez même plus avoir envie de lire, ça va vous énerver plutôt. Parce qu'en fait, ils se moquent de vous. Bon, maintenant, venons à la question sur l'administration. Il faut faire la différence entre la corruption et la gestion des intérêts. La corruption, c'est lorsque, à cause de la gestion des intérêts, vous faites quelque chose qui est illégal. Vous commettez un péché. Vous jouez contre les intérêts publics. À différencier des cas où vous gérez les intérêts, où vous récompensez, où vous motivez quelqu'un. Si on doit construire un hôpital, on a un budget de 100 millions. Tu ne sais pas construire d'hôpitaux, tu n'en as jamais construit. Parce que tu promets 20 millions de commissions à quelqu'un, il te donne le projet en sachant bien que tu ne peux pas. Vous bouffez l'argent, il n'y a jamais d'hôpital. C'est de la corruption. Si tu prends un marché, tu bouffes l'argent, tu n'es pas capable de construire, tu construis un hôpital tordu. Les femmes vont accoucher, elles meurent parce qu'elles ne sont pas équipées. C'est de la corruption. Parce que derrière la gestion des intérêts se cache en fait un péché. Celui de ne pas réaliser les choses comme il le faut, celui de créer des problèmes. Bref, la corruption ne doit pas tenir au simple fait de gérer des intérêts. Il y a corruption quand, à cause des intérêts, je résume, on fait un péché. Mais toute gestion d'intérêt n'est pas de la corruption. La Bible dit qu'un présent, un cadeau ouvre les cœurs. Qu'un présent vous donne accès au roi. Qu'on ne peut pas museler un bœuf qui est en train de labourer un champ de blé. Que l'ouvrier vit de son travail. Il y a plein de passages bibliques qui font l'apologie. Écoutez, il y a par exemple la parabole, il y a une parabole que Jésus a donnée, le gars qui était intendant d'un maître. Le maître veut le virer. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il leur dit, bon, toi, tu dois 100 unités à mon maître. Écris 40, ainsi de suite. Jésus le félicite. Ce n'est pas pour dire que c'est bien, mais Jésus félicite son esprit de prévoyance et son sens d'anticipation pragmatique qui consiste à utiliser son pouvoir actuel pour s'ouvrir des portes demain. Soit dit en passant, utilisez votre vie aujourd'hui, votre vie en Christ aujourd'hui, pour vous préparer le ciel. C'était une métaphore pour le dire, mais c'est des leçons. Donc, la Bible nous dit par exemple de ne pas être ingrat. Paul dit, si j'ai semé dans ta vie, pourquoi je ne vais pas récolter? Vous êtes tranquille, il y a un marché public. Dans tous les cas, il y a toujours plusieurs personnes qui peuvent gagner, qui ont le droit de gagner, qui méritent de gagner. Le gars a au moins 10 personnes qui sont bien. Pour une raison, par exemple, parce que tu es chrétien, il te donne le marché. Dans le marché, tu fais 1 milliard de profit. Sous prétexte que tu ne veux pas faire la corruption, tu vas avoir 1 milliard de profit et tu vas faire comme si personne n'avait signé ton papier. Même si tu as le droit, il aurait pu ne pas signer ton papier. Il aurait pu te fatiguer. Il aurait pu te créer des tracasseries. Que tu finisses de faire ton travail, de gagner ton marché, tu as gagné 1 milliard de profit. Que tu as dit, mon frère, c'est par toi que j'ai eu 1 milliard de profit. Prends 50 millions, ce n'est pas de la corruption, c'est de la gratitude. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la gratitude. Vous allez voir
La Bible est pleine de cas où des gens font. C'est une forme de semence. Les cadeaux entretiennent les relations, la Bible dit. Donc, je dirais en résumé, ce n'est pas l'objet du séminaire, que vous avez deux cas de figure. Il y a des cas de figure où il s'agit de gérer les relations en offrant un présent. Et la Bible est claire, le présent ouvre les cœurs. Vous ne pouvez pas décider que sous prétexte que vous êtes chrétien, vous ne ferez jamais de cadeau à personne. Est-ce que je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la veuve ou bien la femme qui est venue verser un parfum de grande valeur au pied de Jésus, est-ce qu'elle essaie de corrompre Jésus? C'est de la corruption? Elle a corrompu Jésus avec un parfum pour aller au ciel? Mais c'est ça que les hommes appellent la corruption. Elle voit Dieu, elle veut faire plaisir à Dieu pour mériter le ciel, elle lui offre le plus grand parfum qu'elle a. Est-ce qu'elle a essayé de corrompre Jésus? Dans ce cas, Jésus est un corrompu. C'est de la semence. Est-ce que Salomon, en faisant le plus grand sacrifice qu'on ait jamais vu à Dieu, tellement que Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Salomon a corrompu Dieu? C'est de la corruption? Ah, vous n'y avez jamais pensé. C'est des gens qui ont donné de grands cadeaux à Dieu pour avoir quelque chose. Est-ce qu'ils ont corrompu Dieu? Dieu dit, si vous voulez récolter, il faut semer. Il n'a pas dit, il faut corrompre la terre. Il dit, il faut semer. C'est des lois de la vie. Je pense que les chrétiens sont pauvres parce que dans les affaires, ils sont tellement cupides que prétestant la vertu, ils ne veulent gérer les intérêts de personne. C'est de la cupidité, ce n'est pas de la morale.
On appelle ça en fond de noix d'ogo.
Vous prétestez la morale pour ne partager vos gains avec personne. Ce n'est pas ça la lutte contre la corruption. Donc, vous devez en résumé vous assurer simplement que ce que vous êtes en train d'obtenir en gérant les intérêts de quelqu'un n'est pas contre la loi, que vous allez bien le faire et que cela n'engendre aucun péché. J'insiste, que cela n'engendre aucun péché. Si parce que tu as géré les intérêts de quelqu'un, il t'aide à faire ce qui est interdit, tu es dans le cadre de la corruption. Mais quand tu fais ce qui est normal, ce que tu mérites et que tu le fais bien en gérant les intérêts de quelqu'un, ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle la gratitude, ça s'appelle la stratégie. On pourra toujours y revenir dans un autre séminaire. C'est pour ça que les chrétiens sont pauvres. Il n'y a pas d'affaires sans gérer les intérêts des gens.
Oui.
Je suis d'accord avec monsieur, mais je pense qu'il n'a pas répondu à la question. Parce que si c'est dans les 15 millions que je vais gérer, le problème ne se pose pas. Mais quelque chose d'une valeur de 15 millions, qu'on me demande de porter ça à 40 millions, j'aimerais que monsieur réponde concrètement.
Ok.
Une fois encore, il y a plusieurs cas de figure. La valeur d'un bien n'est pas absolue. C'est l'ignorance qui vous fait croire que les choses ont une valeur. Je vous donne un exemple. Quand je prends un stylo, le stylo coûte 100 francs quand vous l'achetez. Celui qui l'a importé en Chine l'a peut-être acheté à 10 francs au coût de revient du stylo. Mais vous le vendez à 100 francs, il ne vous a pas volé. C'est que vous estimez qu'à 100 francs, le stylo est raisonnable comme prix si vous ne l'achèteriez pas. Maintenant, je suis là. Je suis devant quelqu'un qui me cherchait depuis longtemps pour me donner un marché. Il doit me signer un chèque de 100 millions. Mais il voyage pour un an. Je n'ai pas de bic. Tu es à côté de moi, je te dis, passe-moi ton bic. Tu dis, c'est 100 000 ou rien. Je dis, donne seulement. Parce qu'à cet instant précis, le bic pour moi ne vaut pas 100 francs. Il vaut 100 millions. Il ne m'a pas volé. Quand on paye quelque chose, si on paye l'utilité de la chose. L'utilité des choses est relative. Vous me suivez? Toi, tu es peut-être un gars où tu es dans ton quartier, tu es pauvre, tu n'as jamais vu d'argent. 15 millions, c'est la fin du monde pour toi. Tu as monté un projet, tu as ferré les coups parce que tu ne sais même pas qu'on peut gagner l'argent, tu as fait 15 millions. C'est bon. Les autres sont là, ils savent que l'État a prévu 200 millions pour faire ça. Et que si on prend un consultant venu de l'extérieur, il fera moins que toi, il va prendre 100 millions. Moi, il y a des endroits où j'ai été donné des coups. J'ai pris 3 millions pour avoir parlé 4 heures de temps.
Mais vous, là, vous recevez ça cadeau tous les mercredis et jeudis.
À Cotonou, ici, hein, ce n'est pas des endroits. Hein. À Cotonou, à Parcours, j'ai déjà parlé de 9 heures à 14 heures. Donc, ça fait 5 heures de temps. J'ai payé 3 millions. Ma moyenne minimum, c'est 1 million quand je parle de 9 heures à 14 heures. Vous avez dit non, ce n'est pas pour dire
bénéfice.
Demandez à mes clients. D'accord. Mais les professeurs donnent des coups à 10 000 francs l'heure, non?
10 000, même c'est trop.
Si quelqu'un me voit,
c'est 2 000.
Et dit qu'il me paye 1 million. Bon, 1 million divisé par 5, disons 200 000 l'heure. Là où quelqu'un veut prendre 10 000 francs l'heure, est-ce que c'est de l'escroquerie? Quand moi je parle une minute, ce que je peux changer dans la vie du patron d'entreprise, quand lui l'a fait une année de coup, il ne l'a pas changé. Et celui qui paye les 200 000 francs l'heure, il ne paye pas le bavardage pendant une heure. Il paye qu'est-ce que ça change dans sa vie pendant une heure. Il y a des gens qui sont des cardiologues, vous allez chez eux toute votre vie, ils vous donnent des médicaments. Il y a des cardiologues en 5 minutes, ils te disent fais ci, fais ça, tu n'auras plus rien de problème de tension. Si tu le payes 1 million la consultation, ça vaut bien, ça ne vaut pas. Donc la notion de valeur relative, si les gens ont un budget, ils savent que pour moins de ça, quelqu'un aurait facturé plus. Tu viens avec un budget qui est petit. Il dit petit, c'est 15 millions, tu veux, non? C'est pas grave. Notre droit est 40 millions. Mais donne-nous le supplément. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Tant que le travail est fait, qu'ils n'ont pas volé l'État, il n'y a pas encore de problème.
Je pense que les chrétiens doivent apprendre à faire des affaires.
Non, allez faire le monde comme toujours, faire des demandes de sponsoring,
oui,
des parrainages pour l'enfant d'album, mais laissez les affaires c'est fait pour les gens intelligents. C'est la parabole du talent. Quelqu'un fait 100% de profit. On lui a donné un talent. Il a fait comme vous là, il n'a pas voulu fructifier. L'autre prend 2, ça devient 2, 5, ça devient 5. Bon, le gars qui a pris 15 millions, il a fait 40 millions, il n'a pas encore fait trop, il est dans les 100%. Il faut laisser tomber.
Eh bien oui, ils ne veulent même pas faire affaire. Non, Dieu va dire que Adido et nos hommes, mon bé, font l'idée sous des mains. Quel nom? Mais affaire est différente de cupidité d'eux. C'est pas que quelqu'un te dit, va me balayer la maison. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il y a fouille. Ah non. Oui? Allez-y.
Je bénis l'Éternel pour votre vie.
Oui.
Je voudrais faire allusion à votre exposé par rapport à la calomnie. Je voudrais dire, la calomnie, je voudrais avoir une précision sur ça. Dans le couple.
Ça j'ai dit pas que, compris.
Ça dit que moi, Marie, par exemple, je vais en ville, et j'ai vécu certaines choses. Par exemple, une femme qui me raconte sa vie, comme quoi il veut sortir avec moi, il fait tous les jeux, tous les jeux possibles pour sortir avec moi. Et je viens à la maison parce que je fais un avec mon épouse. Je lui raconte ma journée. Ah, il y a telle fille que tu peux même connaître. Hein. Elle a dit si, si, si. Ça peut faire objet de critique et jusqu'à aller un peu sur la calomnie. Ouais, un peu. Une fille de tel genre de vie, par exemple, peut-elle sortir avec moi? Je ne me vois pas en train de sortir avec une femme comme ça. Et puis, l'autre, la femme aussi qui voit aussi ses intérêts en jeu, se laisse aller à ma déclaration, à mon point que je suis en train de lui faire, et se met, ça dit, à
oui,
critiquer,
je vois,
à critiquer. Ça, c'est facile de, que ça aille, n'est-ce pas, sur la
c'est
calomnie.
C'est cet acte-là que je refuse, c'est ça qu'on appelle calomnie, là. Quand j'ai
oui,
dit...
Oui, maintenant, si je fais un avec mon épouse, et que je lui raconte ce que l'autre m'a dit, et mon appréciation par rapport à tout ce qu'elle m'a dit, on voit un peu. Partageant ça là avec mon épouse, est-ce que je fais déjà mal? Ne partagez pas avec une autre personne, mais avec ma femme, est-ce que c'est déjà mal fait?
Partager avec, ce n'est pas mal fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a des moments où j'ai des choses du genre où peut-être quelque chose, je raconte quelque chose à mon mari. Et quand je raconte, c'est féminin. Je me mets à dire, aïe, pas critiquer. Et il me dit, attention chérie, là tu es en train de pécher. Ce n'est pas le fait de raconter qui est mauvais. Si vous allez raconter, tu dis, ah, j'ai vu une fille mal habillée, mal éduquée, une prostituée, ça là. C'est pas ça. C'est pas le fait de raconter là. Tout ce que tu as dit là, sur la personne, on ne t'a pas demandé de description. J'ai rencontré quelqu'un dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai été confronté à elle. Sexuellement, physiquement, moralement, je te raconte. Point bas. Ah bon, c'est ça que tu as eu. Si possible, prier dessus. Pourquoi vous voulez commenter? Pourquoi elle aussi, elle veut dire oui, tu sais, elle est comme ça, hein? Elle est là, elle est légère. Ah, elle est pas commenter, c'est ça, comment? No comment. C'est ça là que je refuse, c'est ça ce qu'on appelle calomnie. S'assoit ensemble pour calomnier les autres. Et ça là, ça tue. Parce que pendant que vous êtes en train de calomnier quelqu'un, il y a des choses qui ne sont pas vraies que vous dites dedans. Quand on est emporté, ah, faut même jouer, j'avais joué ce jeu-là même avec les femmes. Quand elles sont emportées, ah, vite, ma plonia, moi, nous, les bédaoua, fouillotons, naoué. C'est-à-dire, plein de choses. Elle a lu des séries d'adjectifs et de, je ne sais même pas, d'adjectifs qualificatifs et puis je ne sais quoi. Aïe! Non!
D'accord. Et le deuxième point, c'est par rapport à la
malhonnêteté. Oui.
Et moi, personnellement, j'ai été confronté à une situation.
Mm-hmm. Allez-y.
C'est que, je fais l'effort, n'est-ce pas, d'être intègre.
Oui.
Et c'est fait qu'en temps, j'ai connu une situation difficile. Et j'ai été acheté à crédit chez un monsieur. Donc, je lui ai promis une assurance ferme comme quoi, à telle date, je vais te rembourser. Et en mon fort intérieur, je savais que j'allais honorer. Mais ce quoi j'ai compté pour faire cette promesse
n'a pas tenu.
On voit un peu. J'ai été voir le monsieur, je lui ai dit, ah, ma promesse là, ça ne pourra pas tenir à cause de ceci, c'est ça. Laisse-moi un mois. Il a eu le cœur de me donner le temps.
Un mois.
Bon, 13 ans. Toujours, hein, j'ai la, ça dit, je compte sur Dieu. Je lui ai dit, non, je compte sur Dieu comme quoi, ça là, ça ne va pas dépasser. Vous savez, autant prévu, là, ce n'est pas arrivé à accomplissement. Maintenant, c'est entré dans la honte. Je n'ai plus le cœur, n'est-ce pas, de rencontrer ce monsieur. Vous voyez un peu? Maintenant, j'ai envoyé une connaissance, aller le voir pour lui dire, tu m'excuses, c'est parce que je n'ai pas le cœur, n'est-ce pas, de le regarder dans les yeux. Il me dit, non, toi, tu dois être, il doit être faux, laisse-le, patati patata, il dit être chrétien, celui-là, il n'a rien de chrétien. Vous voyez un peu? Il y a certaines situations qui vous collent une étiquette qui n'est pas la vôtre. Vous voyez un peu, mais dans ces conditions-là, vu que ce n'est pas normal que des chrétiens portent ces gens compte, c'est-à-dire qu'on attribue ces gens de qualificatifs aux chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire quelle est la démarche à adopter dans cette situation?
Ça là, vous n'êtes pas malhonnête. Est-ce que vous avez l'argent et vous avez menti? Est-ce que la chose a abouti?
Non, non.
Tu n'as pas, non. Au moins tu l'as respecté, tu es allé. Et une deuxième fois, tu n'as pas le courage, mais tu as envoyé quelqu'un. Où est la malhonnêteté là? Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. La Bible dit, toute malédiction sans cause n'aura pas. À la limite, prier, demander à Dieu, tu vois telle situation, glorifie-toi. Ou chercher peut-être en quoi vous n'avez pas pu avoir ce que vous attendez. Parlez à Dieu, il va vous répondre. Il n'est pas sourd, hein, Dieu. Il n'est pas muet. Parfois, Dieu nous répond, mais on n'entend pas. Et puis, il faut faire attention en tant que chrétien. Ce que je veux dire là, c'est vrai que c'est complexe. Est-ce que le chrétien entend normal? Là où Dieu a même dit, vous serez béni et vous serez une source de bénédiction. C'est vous, chrétien, qui allez emprunter aux nations. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que le chrétien va courir pour aller passer l'argent chez quelqu'un? Si Dieu te bloque, il est en train de te parler. Il est en train de te dire quelque chose. Mon fils, ça, c'est pas bon pour toi. Mon fils, c'est pas le moment. Mon fils, tel, 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 tel. Mais vous pensez que Dieu, là, il est trop lent. Il vient toujours tard. Je vais le dévancer, je vais aider Dieu. Je vais prendre peut-être, c'est un exemple. Je vais prendre peut-être l'argent, je vais aller faire. Ah non? Et Dieu nous a refusé de prendre des engagements. Tu sais quand tu vas mourir? Je ne dis pas que tu vas mourir demain. Tu prends un engagement sur quoi? Sur l'honneur. Quel honneur? Quel honneur, oui. Donc, parlez à Dieu. Écoutez-le.
Maintenant, mon dernier point.
Oui, vite.
Maintenant, par exemple, non, comme on a eu une notion comptable, là, une formation comptable, quand on présente un bilan, par exemple, il y a des capitaux propres et il y a des capitaux étrangers.
Mathématiques, mon Dieu, mon
amour. Non, je veux savoir. Oui. Je veux savoir. Dieu nous a donné la clairvoyance de rédiger, d'avoir un projet. On voit que ce projet-là, c'est un projet viable. comptant sur mes capacités, ah, avec ce projet-là, je vais m'en sortir. Et on n'a pas les ressources nécessaires. Dans ce cas de figure-là, n'est-ce pas qu'on peut faire un prêt, n'est-ce pas, pour faire réaliser le projet?
Afin.
Je veux savoir.
Oui, mais ça veut dire que tu es tout puissant et tu penses que rien que par ce projet-là, tu peux, ce n'est que par ce projet-là que tu peux avoir ce que tu veux, que tu peux prospérer, que tu peux avoir du boulot, que tu peux faire tel, que tu peux faire ça. Oui, il y a d'autres idées.
N'est-ce pas qu'on a donné un talent à quelqu'un, il l'a fait multiplier.
Ah oui, mais Dieu ne t'a pas encore donné le talent. Tu es en train de courir derrière le talent. Il ne t'a pas donné encore. Si lui veut te donner, il te donne dans des conditions, il doit te donner. Tu ne vas même pas dire. Parfois, quand Dieu vous donne des choses, vous n'avez pas à courir derrière, vous chamailler. Dieu a dit, c'est dans le calme. Dans la tranquillité. Dans le repos que se trouve ton salut. Pourquoi tu veux courir? Parle-lui. Écoute-le. Peut-être que Dieu ne veut pas pour toi ce projet, mais tu cours. Il y a des gens parfois que vous rencontrez dans l'église, ils viennent vous poser leurs problèmes. Tu sais vraiment, j'avais eu des difficultés. Tout ça, c'est vrai. Dieu m'a brisé, maintenant je l'ai reçu. Je veux maintenant me relever. J'ai envie de vendre. Avant de venir à Christ, je vendais des wasps, par exemple, au marché. Donc maintenant, je veux reprendre mon activité. Et le gars, il te dit, tu veux reprendre ton activité? Ok. Peut-être que Dieu lui met à cœur que tu fasses autre chose. Et il te dit, bon, et si tu faisais telle chose, et si tu commençais par tel niveau pour grandir? Et tu dis, non, moi j'ai besoin d'argent pour vendre wasp, point, barre. Et tu vas passer de l'argent pour vendre wasp. Soit tu es convaincu par Dieu, ou soit c'est toi-même qui agis personnellement. Et quand tu n'invites pas Dieu, Dieu, il ne se mêle pas des affaires d'autrui. Il dit, je suis à la porte, je frappe, quelqu'un ouvre, je rentre. Dieu ne nous viole pas. Il te laisse, vas-y. Quand tu auras la tête dans le mur, tu reviendras à Dieu. Et tu recommences maintenant, tel qu'il va t'indiquer. Ce n'est pas parce que l'autre a fait projet, ça a marché. Que toi aussi, tu as fait projet, ça va marcher. Ce n'est pas parce que dans ta tête, tu penses que c'est ça qui marche, que ça va marcher pour toi. Il y a des gens qui vendent ouas à ton pas, mais qui ne se sont jamais acheté un terrain. Mais il y a par contre des gens qui vendent du pain, qui ont plusieurs parcelles. Ce n'est pas parce que l'autre a fait. Ou bien on dit, oui, les jeunes, amenez vos projets. Je ne dis pas de ne pas déposer. Et que ce ne soit pas Dieu qui te conduise dans cette direction. Vous voyez que ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Non. À un moment donné, Dieu a dit non. Ah non, ce n'est pas à droite, c'est à gauche. Tu obéis ou tu n'obéis pas? Donc, il ne faut pas se créer des problèmes. Parce que quand vous faites le prêt là, quand vous ne payez pas, ça génère des intérêts. Et votre vie commence par s'enliser dans la dette. Chaque jour, et après on dit, où est Dieu? Écoutez Dieu avant d'agir. Un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, doit d'abord le consulter, l'écouter. Que tu le veuilles ou non, tu dois l'écouter. Parce qu'on dit, c'est toi qui as les paroles de vie. C'est Dieu qui a les paroles de vie. C'est ce que David a dit. Abandonne-toi à lui. Rapidement, qui encore?
Je remercie l'Éternel pour l'enseignement du ce soir.
Amen.
En fait, je bénis l'Éternel parce qu'il m'a amené ici ce soir. Je ne suis jamais venu.
Ah.
Parce que... Et ce soir,
bienvenue.
Il y a un point vraiment qui m'a touché. On avait parlé de ça tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment que nous puissions faire quelque chose vraiment par rapport à cela. C'est le point de l'astrologie, l'histoire de l'horoscope, tout ça là. En fait, chez nous, moi je suis un Ghanéen et dans mon pays là-bas, je vois comment les jeunes, c'est-à-dire avant d'aller à l'école même là, il faut vraiment qu'ils écoutent l'horoscope à la télé de maman avant de partir. Et c'est quelque chose qui détruit la jeunesse. Et la raison pour laquelle les jeunes se donnent à l'horoscope, c'est parce qu'ils ont spirituellement soif. Spirituellement, les gens ont soif. Et ils ont tout attendu dans ce monde. Ils ont entendu parler de l'argent, ils ont entendu parler de diplômes, ils ont entendu parler de beaucoup de choses. Mais il y a des trucs, il y a certaines choses qu'on appelle des mystères. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais entendu ces choses. Donc, ça fait que si quelqu'un vient et il leur flatte un peu, parle un peu de la spiritualité, tout ça là, il croit que non, la personne c'est Dieu. Donc spirituellement, on voit que les jeunes ont soif. Donc quand j'étais venu, on a parlé de l'astrologie, ça m'a vraiment, j'étais tellement content. Amen. Et quand j'ai vu dans la salle, ce n'est pas donné à n'importe qui de regrouper les jeunes que vous voyez ici. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Regrouper les têtes, tous les jeunes, tous ceux qui sont ici sont des jeunes. Donc j'aimerais que vraiment vous puissiez prendre le temps et spécialement pour l'astrologue là, hein, quelles sont les conséquences dedans, qu'est-ce que ça veut dire, ce que en quoi ça peut nous entraîner, tout ça là, que ça soit un séminaire vraiment à part. Et parlons de ça correctement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont soif spirituellement. Et je vois chaque fois, quand on fait des émissions à la télé, par exemple, au-delà du réel, et toutes ces émissions-là, je vois combien de jeunes qui ont envie d'écouter ça. C'est des gens, ils ne sont pas matures spirituellement. Donc, eux, ils sont emportés par n'importe quel vent. Hein, quelqu'un dit, donc, ils sont emportés par cela. Donc, deuxièmement, je remercie vraiment tout l'enseignement parlant de la sanctification, tout et tout. En fait, ce que je m'aurais dit, la sanctification, c'est la puissance. Oui. La sanctification, c'est la puissance. Quelqu'un qui va chez un féticheur, il va consulter, il veut faire quelque chose. On lui dit de ne pas manger ça. À partir de jeudi, ne touche pas ça. À partir de jeudi, ne touche pas cela. Et quand tu touches, tu vois que ce que tu as fait, tu as dépensé des millions pour faire, tu détruis tout. Tu as tout gardé. Et ça ne donne plus aucune puissance. Ça ne génère plus de la puissance. Lorsque nous venons en Jésus, Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, nous faisons face à quelque part. Maintenant, nous devons nous repentir. Tournez, faites tout. La sanctification, c'est la puissance d'un chrétien. Lorsque nous vivons dans la sanctification, nous appelons Dieu. Dieu est présent. Nous chassons les démons. Il part. Donc, merci vraiment pour l'enseignement de ce soir. Et que le Seigneur continue à vous soutenir dans ce ministère. Amen.
Amen. On rend grâce à Dieu. C'est vrai ce qu'il a dit, la jeunesse aujourd'hui a soif. Mais laissez-moi vous dire tout simplement que c'est ce qui est léger que le vent emporte. Si vous voulez avoir du poids spirituel, consommez ça. Obéissez à ça. Que cela vous plaise ou non. Sinon, quand le vent va passer. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est d'être les messagers de Dieu auprès des autres qui n'ont pas Christ. Si vous finissez, vous recevez, vous mangez seul, vous ne partagez pas, vous ne donnez pas. À quoi ça sert de l'entendre? Pour vous seul? Passez toujours le message. Et là même, là, je félicite des gens. Je vois maintenant, les gens sont assis deux à deux. Depuis dimanche, la démonstration de force. Allez-y.
Je nous dis bonsoir.
Oui.
J'ai voulu juste donner un témoignage par rapport à ce que le frère a dit tout à l'heure en ce qui concerne véritablement l'idolâtrie. Exactement comme il a décrit, lorsqu'on commence à atteindre un certain âge, surtout quand on a été à l'école, on commence à chercher à comprendre des choses qui sont des mystères. Je nous dis, je voudrais juste donner ce témoignage et nous dire qu'il faudrait que nous fassions assez attention. Je crois, j'ai connu ce monde. C'est un monde très dangereux. Très dangereux. J'ai connu ce monde. Je crois, j'ai commencé d'abord en tant qu'équiste avant d'aller vers lui, puisque lui nous a amené le paramaksha, ainsi de suite. Je nous dis, pour ce que je voulais savoir et que j'ai commencé à chercher dans les livres équistes, j'ai commencé d'abord L'étranger au bord de la rivière, qui est un livre des équistes qui commence à suivre cela. J'ai découvert assez de choses et cela me dit, c'est-à-dire c'était comme si des choses que j'ai commencé à expérimenter et qui peut-être me donnaient des résultats. Mais ces résultats sont des mystifications. Ce sont des mystifications, c'est des choses qui... Tout se ramène à toi. Ou quand tu souffres, tu ne sais même pas que tu souffres. Parce qu'on te dit que tu es maître de ton destin. Si tu es maître de ton destin, mais Dieu, comme l'a dit déjà l'orateur, Dieu propose et toi, tu viens disposer et dans ta disposition, tu écoutes Dieu. Mais la spiritualité vous évite.
à écouter Dieu, vous empêche d'écouter Dieu, vous bloque les voies de Dieu parce qu'ils vous disent que Dieu, c'est toi. Et c'est normal qu'ils disent que Dieu, c'est toi, en disant que l'homme n'est pas créé par Dieu, parce que tout se transforme, rien ne se crée, et on a quitté l'état minéral pour venir à l'état d'arbre, pour venir à l'état des animaux, et venir méchant. Par la fin.
C'était méchant, hein?
C'était méchant.
Satan, il est méchant.
Comment on peut... Bon, dans quelle alchimie on va quitter d'abord le minéral pour venir à l'état végétal?
Par quelle alchimie? Lui, là, son cerveau est allumé. Par la grâce de Dieu.
Par quelle stratégie on peut quitter le végétal pour venir à l'animal? Parce que c'est de la chair, là. Et l'eau, c'est du bois. Vous savez, j'ai assez évolué dedans. J'ai compris, on nous appelait souvent les adeptes aux yeux d'aigle. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on nous utilisait, c'est des choses que nous utilisions pour voir que tu étais clairvoyant et tu vois bien, alors que c'était en fait pour t'aveugler. Faisons attention, nous jeunes, et ne cherchons jamais à aller dans l'idolâtrie, parce que c'est de la pure idolâtrie, parce qu'en se ramenant tout vers soi-même, n'allons pas là. Je crois que je suis devenu chrétien parce que Dieu a voulu que Dieu a voulu que je devienne chrétien.
Alléluia. Sinon, ça là, on acclame le Seigneur pour ça. On acclame le Seigneur pour ça.
Alléluia. Je ne savais pas qu'un jour, moi, je deviendrais chrétien.
Alléluia.
Ça, c'est vrai.
C'était écrit.
Puisque j'étais déjà entré dedans et très avancé dedans. Par quelle alchimie Dieu a voulu que je redevienne chrétien? Je dis, je lui rends grâce. Chaque fois que je me présente à l'église, je dis toujours à mes frères, à mes soeurs, à mes mamans, à mes papas qui sont toujours présents, expliquer aux jeunes que de ne pas aller vers des lieux où ils ne doivent pas aller. Et souvent, quand j'ai l'occasion, je leur enseigne sur ce qu'ils nous disent là-bas. Et vous dites, faisons attention par rapport à ça. J'ai vécu ça et je ne voulais pas que vous viviez ça.
Amen. C'est ce que je voulais dire.
Non.
C'est pour ça que Jésus vous a appelé. Amen. Pour dénoncer ces mystères cachés là-bas, là, pour révéler ça aux autres.
Amen.
Vous savez, quand on est chrétien, quand on est des parents chrétiens, on est chrétien, mais mon cru gentil, il y a un proverbe fort qui dit ni amando ama vivek moi si rutura ou vivia. Il y a des gens, ils sont nés chrétiens, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Il y a des gens, ils ont eu la grâce de ne pas connaître ces choses-là, mais ils se croient tout permis, ils ne veulent pas obéir au Seigneur. Mais quand Dieu t'amène à des endroits donnés, quand Dieu te conduit à des endroits, et puis après il te ramène. La crainte que tu as de Dieu là est différente de celui qui est né.
Amen. Le chrétien a dit un mot qui était intéressant. Il dit, les jeunes veulent connaître le mystère. Croyant que la Bible n'est même pas un mystère. Ils ne croient que la Bible n'est pas le ministère. Et cherchent le ministère ailleurs. Peut-être que lorsqu'on va à l'église chaque dimanche, le pasteur prêche, on écoute la prêche et ça s'arrête là.
Là.
Il n'y a pas ce qui est derrière ce qu'ils prêchent. On ne voit pas. Alors que les autres, ils subtilisent subtilement, ils entrent dans votre esprit et décortiquent votre esprit, vous détruisent de façon subtile parce que vous ne vous rendez même pas compte. C'est quand vous serez au dedans que vous avez peut-être, si un jour Dieu voulait que vous reveniez derrière, si un jour... Je remercie ce jour où moi j'ai connu le Seigneur.
Amen, alléluia. C'est ça. Vous allez voir des gens au berceau
Ils n'ont jamais touché leur livre saint, leur soi-disant livre saint. Jamais. Ils ne savent même pas ce qui est écrit. Mais ils sont prêts à donner leur vie pour combattre pour cette cause-là. Et les chrétiens sont là. On dit oh, il est oh, prêché, il doit reprendre, laissez tomber. Hein? Que Dieu vous pardonne votre ignorance. Sinon, oui. C'est la dernière question, je crois. Hein?
Oui. Je remercie le Seigneur pour ce séminaire. Je voudrais partager juste quelque chose avec les amis. En fait,
très vite.
Rapidement. C'est lorsqu'on parle de la sanctification, ce qui intéresse souvent, le plus souvent les jeunes, c'est l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire le fait de pratiquer le rapport sexuel avant le mariage.
Il n'y a pas que ça.
Et souvent, les jeunes pensent que c'est avec notre propre force que nous pouvons y parvenir. C'est faux. Et Dieu m'a fait une révélation, Dieu m'a montré une révélation. Je lisais ça toujours dans la Bible, mais c'est ici que je l'ai pratiqué, ça marchait. Et je voudrais que ceux qui sont souvent en face de cette situation pratiquent ça. Ça marche. Et ça marche toujours. On ne résiste pas au péché. On résiste au diable et on fuit le péché. Toutes les personnes qui ont déjà connu une fois le sexe,
okay.
L'homme, homme ou femme, et qui, dans une certaine circonstance, pense que, en disant sang de Jésus, je vais résister devant une femme nue, il se verra coucher avec cette femme-là. Il faut fuir toute personne qui se trouve en face de ça. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour ce
séminaire. Il faut bien écouter.
Pour ce séminaire. Et ça a ressonné, c'était monsieur qui avait dit ça une fois, ça a ressonné dans ma tête d'une autre manière. C'est vrai, c'est des passages que je lisais souvent, mais j'ai dit, quoi? Il faut fuir le péché et résister au diable. Si nous avons ça dans la tête, je voudrais bien parler des gens qui étaient dans le monde, qui pratiquaient l'immoralité sexuelle, qui ont regretté et qui sont revenus à Jésus, qui ont voulu finir définitivement avec ça et vivre une vie de sanctification avec Dieu. Je voudrais leur proposer cette formule-là. On ne résiste pas au péché, on fuit le péché et on résiste au diable. Merci.
On rend grâce à Dieu. C'est tout, point bas. C'est la fin du séminaire. Ça dit que il y a un homme de Dieu, de nos anciens pasteurs, il prêche. À des moments donnés, vous savez que le diable aime parfois des femmes. Hein? Ah, vous aussi. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Elles sont mlélélé. Nye. Et puis elles s'habillent. Et vous savez ce qu'elles font? Il y a dit devant. Avec des jupes mini. Pendant la prédication. Et quand il y a l'autre, cet homme de Dieu là, il dit, hé, derrière, tu as compris. Et pendant qu'il prêche, il dit, regardez-moi ça, assassin comme ça. Vous ne savez pas, et en même temps, en ce moment-là, cet homme de Dieu n'était même pas marié. Il dit, assassin, des démons comme ça. Vous ne savez pas que l'homme de Dieu, c'est un homme. Hein? Et mon père a l'habitude de dire que je suis manué, il y a des choses qui bougent dans les pantalons, vous aussi. Et puis vous aussi, en allant à l'église, là, les femmes pas décolletées et monotoafies. Si c'est exagéré, je te renvoie. Moi, je n'ai pas besoin de monde là. J'ai besoin de dire ce que Dieu m'a demandé de dire. J'ai besoin de redresser le peuple de Dieu. J'ai besoin d'amener le peuple de Dieu à la sanctification pour marcher avec lui et être demain là. Des plusieurs gagidibi, des plusieurs serviteurs de Dieu, des géants dans la foi qui brisent les démons. Je ne veux pas des gens qui viennent s'asseoir. Ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont 100. Même si vous êtes 1000 ici, là, vous allez me donner quoi? On n'a jamais parlé devant 1000 personnes. Vous êtes 50 là. C'est beaucoup ça. Résistez là au diable. Quand le diable vient là, tiens. Je prends autorité dans le nom de Christ Jésus. je te chasse, je te réprimande, je te commande. Mais le péché vient, les belles, tu dis, tais-moi, je suis garçon, je ne fais pas ça. Hein? Peut-être que c'est Sam qui vient devant toi. Il commence par, il a dit, protège-y. Nous, il mon Dieu, mais sous les minutes, Dieu a son limite, mon Dieu, manie, mitre. Nous, il faut fuir le péché. Il n'y a pas de moi, je peux. Il faut fuir au guégué. Bon, détale. N'attends même pas, détale. Il y a un sinon, bon, c'est mieux pour toi. Mais quand tu es là, attention, hein, surtout l'immoralité sexuelle, là, pour la jeunesse. Parce que sachez que la jeunesse, là, c'est la relève. C'est aujourd'hui la puissance dans le royaume. Parce que si vous avez dans vos églises des jeunes inactifs, les balanois, on se tient debout. C'est la fin du séminaire, on va prier.
Éternel de gloire, nous te disons merci.
Merci Seigneur.
Merci pour ta grâce que tu nous as accordée.
Merci Seigneur.
De venir ici ce soir et tu nous as enseigné.
Merci Seigneur.
Nous te rendons infiniment grâce.
Amen.
Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir.
Merci Seigneur.
Merci pour toutes ces choses que tu nous as enseignées.
Merci Seigneur.
Seigneur, nous ne voulons pas être juste des auditeurs oublieux. Mm. Seigneur, donne la grâce de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes.
Amen.
Seigneur. Éternel de gloire, nous prions, Seigneur, que nous ne soyons pas des personnes qui ne mettent pas en pratique la parole. Mm. Mais quand nous sortons, Seigneur, donne que, accorde-nous la grâce. Que nos vies reflètent, Seigneur, ta gloire.
Amen.
Seigneur, que nous puissions toujours porter du fruit pour glorifier ton nom.
Amen.
Seigneur Dieu, nous repartons d'ici, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Seigneur, aide nous accompagner dans nos demeures respectives, saints et saufs, au nom de Jésus.
Amen.
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous.
Merci.
Louange à toi, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Amen. Soyez bénis.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?